Les matins de France Culture.
Et voici la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour,
ce matin,
Guillaume.
Comment décoder la pensée?
Oui, un jeune chercheur du prestigieux Institut de technologie du Massachusetts, MIT, vient de mettre au point un appareil qui, au moyen de détecteurs placés entre le menton et l'oreille, est capable de lire les mots avant qu'ils soient prononcés. Ou pour le dire plus simplement, un décodeur de la pensée. Grâce à des électrodes captant les minuscules signaux électriques générés par les subtils mouvements musculaires internes qui se produisent lorsque vous vous parlez à vous-même, l'appareil envoie ces signaux à un ordinateur, lequel les interprète pour retranscrire ce moment particulier qui existe donc entre l'élaboration d'une pensée et sa formulation par la parole. Alors pour l'instant, cette technologie appelée Alter Ego n'en est encore qu'à ses débuts, précise le site Popular Science. Le prototype ne reconnaît qu'un vocabulaire réduit. Quant au but recherché, explique pour sa part le magazine Forbes, il vise à vous permettre de communiquer avec un ordinateur en pensant simplement à ce que vous voulez lui dire, mais sans lui dire. C'est un peu comme si vous donniez un ordre à l'assistant Siri de votre smartphone, mais uniquement par télépathie. Seulement voilà, on imagine aisément quelles pourraient être aussi les autres applications possibles. Dans le cadre, par exemple, d'un interrogatoire, un tel dispositif offrirait la garantie d'une totale transparence. Et voilà pourquoi ce qui semble a priori séduisant, écrit ce matin une chroniqueuse du Temps, se révèle en réalité surtout inquiétant. Bien sûr, on sourit en imaginant les courtisans de la planète démasqués, sauf que si la sincérité sans filtre peut sembler chevaleresque, en réalité c'est une plaie, tout d'abord parce qu'elle peut blesser inutilement, ensuite la sincérité rend généralement aigre ceux qui la pratiquent car ils se sentent seuls dans leur croisade de la vérité, enfin et surtout, si elle évite le défaut de duperie, elle précipite son adepte dans le péché d'orgueil, car après tout, qui possède vraiment la vérité et y a-t-il seulement une vérité?
Quoi qu'il en soit, cette course aujourd'hui à l'intelligence artificielle fait débat en Allemagne.
Oui, plus exactement, selon Der Spiegel, les Allemands devraient s'inquiéter de ce que leur pays soit si en retard, dit-il, notamment par rapport à la France en matière d'intelligence artificielle. Dans cet article repéré par le Courrier International, le journaliste va jusqu'à dire que la comparaison entre les pays voisins est une source de souffrance. Tandis qu'en Allemagne, on considère l'intelligence artificielle comme de la dangereuse science-fiction, Emmanuel Macron, lui, déclare, je cite, que cette gigantesque révolution technologique est en fait une révolution politique. Et le magazine d'en tirer une conclusion amère. Si la France a une stratégie nationale aujourd'hui dans ce domaine, l'Allemagne, elle, s'efforce seulement maintenant d'atteindre en réalité les objectifs affichés par le haut débit en 2013.
Et puis, lui était interrogé hier au Congrès américain, sauf qu'il n'était pas muni pour l'occasion d'un décodeur de la pensée, mais la presse, elle, s'est chargée de déchiffrer son intervention.
Et lui, c'est Mark Zuckerberg qui, pour l'occasion, et ainsi qu'on le voit ce matin en une du Guardian, avait troqué son éternel t-shirt gris pour un costume cravate. Le patron de Facebook a accepté en effet de témoigner devant le Sénat et la Chambre des représentants dans un exercice aux airs de grand oral, note de son côté The New York Times. 5 heures durant, le jeune PDG a réitéré ses excuses et assuré aux élus que son groupe mettrait tout en œuvre pour empêcher le détournement des données de ses utilisateurs, ainsi que l'a révélé le scandale Cambridge Analytica. Sauf que Zuckerberg aura surtout tenté en réalité de préserver sa société de toute réglementation plus stricte. Et la tâche ne lui a pas semblé a priori trop difficile. Lui qui s'était préparé à répondre aux questions des parlementaires en embauchant non seulement des consultants mais aussi toute une équipe d'avocats. Il avait même organisé une session fictive avec des membres de son personnel remplissant les rôles de sénateurs. Sauf qu'il aurait pu tout aussi bien demander à ses grands-parents de jouer les cobayes tant il est apparu à maintes reprises, écrit The Independent, que ceux qui l'interrogeaient n'avaient qu'une vague idée du sujet. Certains semblaient même totalement ignorants. Sans compter, rappelle pour sa part The Financial Times que de par son modèle commercial, Facebook ne pourra de toute façon jamais réviser sa protection des données, et ce pour une raison simple, l'entreprise dépend de la collecte et du partage du plus grand nombre possible d'informations personnelles. Pourquoi ? Pour que ses clients publicitaires en profitent. Même analyse du quotidien économique letton, Diana's Business, les données sont devenues une véritable matière première et leur importance commerciale est appelée à augmenter encore à l'avenir, que nous en soyons conscients ou non. Nous payons aujourd'hui au prix fort la gratuité du web et ce prix, c'est précisément notre vie privée. Reste à savoir si le monde serait du coup meilleur sans Facebook, interroge de son côté la Frankfurter Rundschau. Les avis sont encore partagés, mais surtout, sans doute est-il déjà trop tard pour se poser la question ou quand Mark Zuckerberg est aujourd'hui dépassé par la créature qu'il a créée.
On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure, Thomas, puisque Henri Verdier, l'administrateur général des données, sera notre invité, ainsi qu'Amel Guiton, journaliste à Libération, spécialiste des enjeux politiques et sociaux numériques. Dernière chose, Thomas, une autre créature à l'honneur, une créature numérique d'ailleurs, un monolithe noir, mais pas seulement.
Oui, il y a un demi-siècle sortait sur les écrans américains le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, l'occasion pour un journaliste du très sérieux Financial Times de s'interroger, mais au fait, quelqu'un a-t-il jamais compris quelque chose à ce film? Alors bien sûr, certains vous diront qu'il faut simplement se laisser emporter par l'art, et c'était là d'ailleurs manifestement l'intention du réalisateur. En 1970, Stanley Kubrick a lui-même déclaré que le film était fondamentalement une expérience visuelle non-verbale. Alors dans le genre verbeux, on peut difficilement faire mieux. Toujours est-il que 50 ans plus tard, les gens débattent encore de ce que ce film signifie. Pour moi, écrit le journaliste, c'est une parabole sur l'évolution du public. Au début, nous sommes les primates de la scène d'introduction à nous bousculer pour vénérer la supériorité technologique du film. Et puis, alors que le monolithe noir qui déclenche le stade suivant de l'évolution nous entraîne vers l'ère de la conquête spatiale, nous ressortons du cinéma enthousiaste, bien qu'habité d'un sentiment persistant de doute quant au fait que nous n'avons rien compris. Et si vous avez le sentiment que j'ai tort, dit-il, je vous propose un test simple. Avez-vous vraiment envie de revoir tout ce bazar en entier?
Merci beaucoup, Thomas Cluzel.